fort, regardant à la petite dépense, le roi Philippe ne lésinait pas dès lors qu'il s'agissait d'affirmer la puissance de l'État. Mais comme il ne négligeait aucun profit, il avait concédé aux merciers, moyennant redevance annuelle, le privilège de tenir boutique dans la grande galerie du palais, qu'on appelait de ce fait la galerie mercière, avant de l'appeler la galerie marchande. Cet immense vestibule, haut et vaste comme une cathédrale à deux nefs, faisait l'admiration des voyageurs. Sur les chapiteaux des piliers se dressaient 40 statues figurant les 40 rois qui, depuis Pharamond et Mérové, s'étaient succédés à la tête du royaume franc. Face à l'effigie de Philippe le Bel avait été placée celle d'Enguerrand de Marigny, coadjuteur et recteur du royaume qui avait inspiré et dirigé les travaux. Ouverte à tout venant, la galerie constituait un lieu de promenade, de négoces et de rencontres galantes. On y pouvait faire ses emplettes et en même temps y côtoyer les princes. La mode se décidait là. Une foule incessamment déambulait entre les éventaires, au-dessous des grandes statues royales. Broderies, dentelles, soieries, velours et camelins, passementeries, articles de parure et de petites joailleries, s'entassaient, chatoyaient, miroitaient sur les comptoirs de chêne, dont le soir on relevait l'abattant, ou chargeait des tables à tréteaux, ou pendait à des perches. Dames de la cour, bourgeoises, servantes allaient d'un étalage à l'autre. On palpait, on discutait, on rêvait, on flânait. L'endroit bruissait de discussions, de marchandages, de conversations, de rires, dominé par le boniment des vendeurs racolant la pratique. Nombreuses étaient les voix aux accents étrangers, surtout des accents d'Italie et de Flandre. Un gaillard efflanqué proposait des mouchoirs brodés, disposés sur une bâche de chanvre à même le sol.
« Ah, n'est-ce point pitié, belle dame » cria-t-il, « que de se moucher dans ses doigts ou dans sa manche, quand vous avez pour se faire des toiles si finement adornées que vous pouvez nouer avec grâce autour de votre bras ou de votre aumônière ?»
Un autre amuseur à quelques pas jonglait avec des bandes de dentelle de maline et les lançait si haut que leurs arabesques blanches montaient jusqu'aux éperons de pierre de Louis le Gros.
« On brade, on donne, six deniers l'aune, laquelle de vous n'a six deniers pour se faire les tétons aguicheurs ?»
Philippe le Bel traversa la galerie dans toute la longueur. La plupart des hommes sur son passage s'inclinaient, les femmes amorçaient une révérence. Sans qu'il le montrât, le roi aimait l'animation de la galerie mercière et les marques de déférence qu'il y recueillait. Le bourdon de Notre-Dame continuait à tinter, mais le son n'en parvenait ici qu'atténué, assourdi. À l'extrémité de la galerie, non loin des degrés du grand escalier, se tenait un groupe de trois personnes, deux très jeunes femmes, un jeune homme, dont la beauté, la mise et aussi l'assurance attiraient l'attention discrète des passants. Les jeunes femmes étaient deux belles filles du roi, celles qu'on appelait les sœurs de Bourgogne. Elles se ressemblaient peu. L'aînée Jeanne, mariée au second fils de Philippe le Bel, le comte de Poitiers, avait à peine 21 ans. Elle était grande, élancée, avec des cheveux blonds cendrés, un maintien un peu composé et un long œil oblique de lévrier. Elle se vêtait avec une simplicité qui était presque une recherche. Ce jour-là, elle portait une robe de velours gris clair, aux manches collantes, sur laquelle était passé un surcot bordé d'hermine qui s'arrêtait aux hanches. Sa sœur Blanche, épouse de Charles de France, le cadet des princes royaux, était plus petite, plus ronde, plus rose, plus spontanée. Âgée de 18 ans, elle gardait aux joues les fossettes de l'enfance. Elle avait une blondeur chaude, des yeux marron clair très brillants, et de petites dents transparentes. S'habiller était pour elle plus qu'un jeu, une passion. Elle s'y livrait avec une extravagance qui ne relevait pas forcément du meilleur goût. Elle s'ornait le front, le col, les manches, la ceinture, de plus de bijoux qu'elle pouvait. Sa robe était brodée de perles et de fils d'or. Mais elle avait tant de grâce et semblait si contente d'elle-même qu'on lui pardonnait volontiers cette profusion naïve. Le jeune homme qui se trouvait auprès des deux princesses était vêtu comme il convient à un officier de maison souveraine. Il était question dans ce petit groupe d'une affaire de 5 jours dont on discutait à mi-voix avec une agitation contenue.